Bonjour David, bonjour à tous. Une formation soudage sur mesure afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises locales, c'est ce que propose actuellement le Greta de Bressuire. Le fret relancé par la rénovation du tronçon Thouars et Niort, pourquoi ne pas imaginer le transport de voyageurs à l'avenir? L'opposition municipale moléonnaise plus sur la même longueur d'onde, elle continue en effet de se déchirer. L'inauguration récente du réaménagement de l'épicerie associative Le Petit Dépôt à Loublande, et puis dans l'actualité sportive, les Chamois reçoivent ce soir Rouen. Objectif, conserver leur seconde place au classement avant la trêve. Les U18 de Gatifoot jouent eux un match historique face à Trélissac demain après-midi en Coupe Gambardella. Quant à la météo, éclaircie en nord de Sèvres, le ciel restera quelque peu nuageux dans le sud. Le département des Deux-Sèvres reste en vigilance jaune ce vendredi, même si le niveau de la Sèvre niortaise continue lentement de baisser. Il faut en effet rester vigilant, car d'éventuelles nouvelles précipitations dans les prochains jours pourraient de nouveau faire réagir le fleuve, car les sols sont toujours gorgés d'eau. Devant l'augmentation des indicateurs des infections respiratoires aiguës, les IRA, désormais, le port du masque est obligatoire lors des visites à l'hôpital de Cholet. Port du masque obligatoire aussi pour les professionnels et les bénévoles. La ville de Niort a voté son budget 2024 hier soir. 28 600 000 euros seront consacrés l'année prochaine aux investissements, contre 27 800 000 en 2023. Les principaux postes concerneront les opérations d'urbanisme et d'habitat. En termes de fonctionnement, 79 millions ont été inscrits, dont la moitié consacrée aux professionnels. Si les impôts locaux n'augmenteront pas à nouveau l'année prochaine, les tarifs municipaux, eux, connaîtront une hausse de 3 à 5%. En lien avec les entreprises, le Greta propose une formation soudage sur mesure pour des adultes. Il y a 6 stagiaires travaillant chez Uliesbus, OMA et Xapac, 3 entreprises du territoire du Bocage Bressuré qui ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et qui ont décelé chez leurs salariés une capacité à progresser en soudure. Écoutez Céline Proust, elle est chargée de projet au pôle Métal 2S, un groupe membre de plusieurs entreprises de la métallurgie.
C'est parti donc d'un besoin spécifique de 3 entreprises qui, donc chacune, avait besoin de former soit des salariés ou de nouveaux candidats, mais vraiment avec leurs spécificités. Aujourd'hui, c'est vrai que le besoin est grandissant et il est très important de former en permanence pour pouvoir justement alimenter les besoins des entreprises.
Une 60aine d'offres d'emploi a été disponible ces dernières semaines pour des postes en soudure sous le Bocage Bressuré. Les stagiaires de 25 à 40 ans viennent d'horizons très divers, de la mécanique générale au ramassage des volailles, voire même de la comptabilité, comme c'est le cas pour Delphine, qui, à 37 ans, souhaitait quitter le tertiaire pour un métier manuel.
Il faut bien tester, oui. Après, je ne sais pas si c'est donné à tout le monde, mais oui, il faut se lancer pour savoir.
Il y avait cette envie de faire un travail manuel, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller vers ce métier?
Là, c'est vraiment l'occasion qui a fait que j'ai vu l'annonce et puis je me suis dit pourquoi pas essayer ce métier.
Alors, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de qualifications, mais qu'on peut quand même exercer assez rapidement. Ça a été un critère important?
Oui, je ne voulais pas que la formation soit trop longue, effectivement.
Alors, les premières impressions?
J'avais aucune idée avant de venir, donc c'est vraiment une découverte complète. Après, pour l'instant, tout va bien. Donc.
La particularité de cette formation dispensée par le Greta, financée par Pôle emploi, les agences d'intérim et les entreprises, sur une période moyenne de 3 mois, c'est qu'elle est vraiment très personnalisée en fonction du niveau des salariés et des besoins des entreprises. Le formateur Emmanuel Rago.
Ça passe d'abord par une analyse du besoin auprès de l'entreprise, puis ensuite on reçoit les gens dans le cadre de tests de positionnement pour voir leurs habiletés manuelles et pratiques, ainsi que d'autres petits tests plutôt cognitifs, et puis ensuite, dès lors, on est en capacité de proposer une formation à façon avec une volumétrie et une volumétrie horaire, quoi. On a donc 2 procédés de soudage qui sont le SMI automatique et le TIG, qui aboutissent tous les deux à des résultats complètement différents. On va plutôt favoriser le TIG pour des pièces qui vont être d'aspect, et puis ensuite plutôt le semi-auto sur de la série, quoi.
Les entreprises, elles ont besoin d'un certain nombre de qualifications dans leur entreprise, justement, pour pouvoir répondre à certains marchés.
Les clients des entreprises en question exigent des qualifications dès lors où les pièces sont soumises à l'intégrité physique des gens. Et pour cela, il existe un grand nombre de positions de soudage et de qualifications internationales pour chacun des 2 procédés. Et nous, on est en capacité de former les gens à toutes ces positions-là.
Et puis sachez qu'une autre formation soudage à destination des demandeurs d'emploi est en cours également sur le plateau technique du lycée Léonard de Vinci à Bressuire. Un nouvel horizon vient de s'ouvrir pour le Toircé grâce à la rénovation des 33 km de voies ferrées entre Saint-Varan et Parthenay. Avant ce mois de décembre, les trains transportant les granulats des carrières de Saint-Varan et de Mauzé devaient remonter à Tours pour redescendre vers Bordeaux. L'État et la région Nouvelle-Aquitaine ont assumé l'essentiel des 17 millions d'euros nécessaires à la rénovation devant les carrières Roy, le Toircé et l'Air Vaudet. Désormais, les trains de marchandises peuvent relier Tours à Niort et Bordeaux, ce qui permet de retirer des routes des milliers de camions de cailloux. Une question se pose maintenant, ne serait-il pas temps d'ouvrir la voie au trafic voyageurs sur cette ligne ferroviaire qui longe la Sévrienne? La réponse est oui, car la société bretonne Taxirail a conçu des navettes légères à la demande, comme l'explique l'un des ardents militants de cette solution, le député Jean-Marie Fievé, au micro-colline de notre correspondant en Tours, c'est Dominique Hérault.
C'est des mini-trains, en fait, des trains équivalents d'un minibus ou au maximum d'un grand bus, disponible, on va dire, 24h sur 24, pratiquement, sans conducteur, qui serait en motorisation électrique. Ça serait un tramway à la demande, bien sûr. Ça pourrait faire Saumur, Tours, Parthenay, Niort, par exemple.
Sur le papier, cela paraît assez simple, mais vous l'imaginez bien, on ne transporte pas des passagers comme du sable, des céréales ou des cailloux. Jean-Marie Fievé.
C'est un barreau de fret, hein, attention, il ne faut pas confondre. Alors, effectivement, on n'a pas le droit de rouler dessus avec des voyageurs sur un barreau de fret, mais à terme, c'est intéressant quand même de réfléchir sérieusement sur cette ligne qui n'est pas utilisée 24 sur 24, parce que les trains de fret, c'est quelques trains par jour, c'est pas non plus en continu. Donc, c'est intéressant qu'entre les trains, on puisse utiliser ce barreau qui va de Saumur à Niort et même plus loin pour le passager. Le week-end, aucun train de fret ne fonctionne sur cette voie, ou sur aucune voie de France, en fait. Et donc, on pourrait aussi faire un train historique, par exemple, pour touristes, le week-end, entre Tours et Niort, par exemple. Enfin, il faut faire évoluer de la réglementation, qui est compliquée par rapport à la SNCF, bien sûr.
Taxirail lancera un premier prototype en Normandie en 2024. En Gironde, un projet mûri dans les cartons. Pour le Toircé, rien n'est encore acté, car c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui finance ce type de mobilité. Et si elle était choisie, l'option Taxirail serait un joli cadeau de Noël, mais pas avant une petite dizaine d'années, ce qui laisse le temps de voir passer quelques convois de cailloux en attendant. Reportage de Dominique Hérault. L'opposition municipale moléonnaise continue de se déchirer. Fin novembre, l'ICEM, Association citoyenne du Moléonais, publiait un texte sur sa page Facebook invitant les Moléonais à s'engager à ses côtés plutôt que de critiquer les actions de la municipalité via les réseaux sociaux. Sauf que les deux élus présentes en début de semaine en conseil municipal ont pris la parole pour se désolidariser de ce texte écrit par Thierry Descamps. Écoutez Nadia Brouche et Odile Liostri-Drochon.
Il y avait l'atelier Moléonais qui a été en tout cas dissous au printemps dernier. À cette suite, une nouvelle association a été créée qui est l'ICEM, pour lequel j'en fais pas partie. Madame Drochon en a fait partie peut-être un moment de temps.
Non, j'ai démissionné le 10 mai au cours de la dernière assemblée générale. Il avait été convenu lors de cette dernière assemblée générale que cette association devait être dissoute. Or, notre colistier a repris à son compte et sous le couvert de cette association le texte avec lequel nous nous associons bien évidemment pas du tout et pour lequel il va y avoir des suites.
Alors, en quoi ce texte vous déplaît ?
Il a été décidé unilatéralement, sans approbation des trois autres. Il s'est permis, encore une fois, la liberté de publier sur un réseau social, pour ne pas le citer, Facebook.
L'opposition moléonaise, déjà très minoritaire et donc éparpillée, va devoir reconstruire sur elle si elle veut jouer un rôle lors des futures échéances électorales. Les nouveaux aménagements de l'épicerie associative, le petit dépôt à Loublande, récemment inaugurée. Elle a été lancée en 2016 à l'initiative du maire délégué de l'époque, Jean-Marie Cousseau, en réaction à la fermeture de la boulangerie, dernier commerce du bourg. Il a réuni des citoyens qui avaient envie de s'engager pour faire vivre un commerce dans leur commune. Marc Voisin est le président de l'association Le Petit Dépôt.
L'idée, c'était de conserver quelque chose avec un lien social. Et donc, effectivement, c'est monté un groupe d'une vingtaine de bénévoles qui ont dit on va essayer de relever le défi de faire quelque chose. Le transitoire dure, effectivement, donc ça continue jusqu'à aujourd'hui. Sachant qu'on a quand même bénéficié d'une chose qui a permis aussi que ça perdure. Alors, deux, c'était le fait que la mairie était prête à mettre à disposition un local. Donc ça, c'était un des piliers. Le deuxième pilier, ça a été lorsque nos députés ont voté la loi des territoires zéro chômeur, qui a fait que sur Mauléon, l'ESIAM s'est monté et qu'on a pu bénéficier effectivement de salariés de l'ESIAM.
L'ESIAM assure en effet toutes les ventes du petit dépôt de Loublande, sauf deux week-ends par mois où ce sont les bénévoles qui prennent le relais pour tenir le magasin et papoter avec les clients, car c'est bien là le but recherché et encouragé par la commune, laquelle vient donc d'investir un peu plus de 30 000 euros pour des travaux d'aménagement pour un commerce qui devait être transitoire, comme vous l'avez entendu, mais qui dure en attendant qu'un professionnel ne relève le défi. Karine Pied est la maire déléguée de Loublande.
Ça date maintenant déjà depuis 2016, donc leur activité a bien évolué. Il y a eu d'abord des pots de pain, après les journaux, après les colis des différents paniers de légumes. Il y a eu aussi le travail avec Cédric Chéniaud au départ, qui nous a bien aidé au niveau de la boucherie-charcuterie. Après, il y a eu de la conserverie, donc ils se sont bien développés. Donc nous, au niveau de la commune, on les a aussi accompagnés dans ce changement-là où c'était devenu trop restreint, et c'est pour ça que aujourd'hui on est tous ici pour faire l'inauguration des nouveaux bâtiments, parce que ça devenait un peu urgent aussi bien pour eux, parce qu'ils avaient maintenant besoin de bureaux, d'espace et de sanitaires dignes de ce nom. Il est très important que cette épicerie reste pour que notre population puisse aussi consommer et rester sur le territoire.
Le petit dépôt de Loublande est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30. Reportage signé Fabien Gazot. Le sport. Suite aux précipitations des derniers jours, la ville de Niort a prolongé l'arrêté interdisant la pratique de toute activité sportive sur les terrains enherbés à compter de ce vendredi jusqu'au 1er janvier inclus. Cela concerne l'ensemble des stades municipaux. Seules deux rencontres sont maintenues ce week-end. En football, Saint-Lizier face à Angoulême en Régional 3, et en rugby, le match au stade Espinassou entre Niort et Langon. Les Chamois niortais, eux, reçoivent Rouen ce soir à 19h30. Des Chamois auteurs d'un début de saison très satisfaisant qui aimeraient bien partir à la trêve auréolée d'une deuxième place qu'ils occupent depuis quelques semaines maintenant. Mais la meute est lancée derrière à un ou deux points avec Martigues, Villefranche et Rouen. Au-delà du résultat de ce soir, le classement pourrait être chamboulé par les difficultés financières rencontrées par Marignane et Rouen, justement. L'entraîneur des Chamois niortais, Philippe Isberger.
Avec la Fédé, c'est toujours comme ça. Hein. Je veux dire, on a Sochaux qui a quand même commencé le championnat la troisième journée. Ça quand même, je pense que c'est quand même un précédent. On a quand même, j'avais vu ça, quand on est parti à 17, et les mecs, ils ont rattrapé deux journées. Quand je veux dire, on se demande quand même. Donc, après, j'en sais rien, moi, je suis pas dans les trucs. Est-ce qu'on a laissé partir des clubs qui étaient pas prêts financièrement, est-ce que, etc. Mais ça serait quand même dommageable qu'on finisse à 17, que des clubs s'arrêtent en cours de chemin. Aujourd'hui, je vois pas comment, avec les organes de sécurité, de surveillance qu'il y a, je veux dire, ces choses-là, elles sont encore possibles. Bon, maintenant, il y a tellement de clubs à gérer au niveau de la Fédé que ça ne va pas être facile. Mais nous, on n'est pas du tout concentré là-dessus. Moi, je m'en fous. Hein. Si demain, Marignane s'arrête et qu'on perd 3 points, ben, on perd 3 points. C'est comme ça. C'est le règlement. C'est fâcheux, c'est injuste, c'est tout ce que vous voulez. Mais bon, on ne va pas être là-dessus. Les gens n'ont pas la réponse. Et puis, on verra bien. Quand on est sur le terrain, il faut s'enlever toutes ces ondes négatives. Il faut rester concentré sur ce qu'on a à faire. Le reste, on n'a pas la main. Donc, c'est pas la peine de s'énerver sur les choses sur lesquelles on n'a pas la main.
En tout cas, les Chamois sont à la veille d'une période de repos bienvenue. Les organismes étant en effet fatigués.
Il y aura une période de récupération parce que bah, ça fait déjà 5 mois qu'on est sur le chantier. Parce que depuis un mois et demi, les conditions d'entraînement, elles sont très, 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 très compliquées. Pour nous, c'est très compliqué. Les terrains, ils sont détrempés. Il est tombé énormément d'eau. Donc, on a alterné un petit peu entre le terrain d'honneur, le terrain d'entraînement, le synthétique, la minerai. Enfin bon, on fait un peu comme on peut. Donc, je pense que... Déjà psychologiquement, physiquement, on sera content de couper une bonne dizaine de jours. Et puis après, ben, on reprendra le fil de notre saison.
Chamois niortais Rouen, c'est donc ce soir qu'on envoie de la rencontre à 19h30. À la même heure, Cholet, lanterne rouge de ce championnat national, affrontera à domicile l'équipe du Mans. C'est un match historique pour les jeunes de Gatifoot pour le compte du premier tour fédéral de la Coupe Gambardella. Après avoir été annulé le week-end dernier pour cause de terrain praticable, les jeunes U18 de Gatine, qui évoluent au niveau régional, seront opposés demain après-midi à Trélissac, club de Dordogne et de niveau national. Cyril Hay est l'éducateur des U18 de Gatifoot.
Ce groupe, il a été façonné, on va dire, par une personne qu'il faut mettre en valeur, qui s'appelle Cindy Marceau, qui avait pris le groupe en 15 ou 16 R2 et qui l'a fait monter. Alors, c'est un groupe plutôt restreint, on n'a pas un effectif pléthorique, mais c'est des garçons... fort agréable et qui s'accroche pour essayer de donner le maximum tous les week-ends.
Et donc, ce samedi, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous allez vous attaquer un sacré morceau. Hein.
Oui. C'est inespéré pour un petit club comme le nôtre, quoi. Enfin, et alors pour les garçons encore plus, je leur ai dit que dans la vie de sportif, on va dire, de footeux, c'est peut-être le seul et l'unique moment où ils auront leur petit jour de gloire. C'est, ça reste, faut pas non plus exagérer, mais c'est le match, des matchs comme ça, on en fait peut-être, enfin, j'insiste sur ce côté, vraiment qu'un dans sa vie, quoi. Peut-être que certains vont arrêter le foot avec les études ou le boulot. Donc il faut en profiter un maximum et jouer le match à fond.
Gatti Foot, Trélissac en Coupe Gambardella, c'est demain samedi. Coup d'envoi du match à 17h au stade de Secondigny.